L'accusation prouva que le pistolet, un souvenir de guerre, avait été récemment graissé, mais qu'il fallait cependant exercer une forte pression sur la détente pour faire feu. Les experts jurèrent que l'arme se trouvait au moins à 90 cm de la poitrine de la victime quand elle avait servi. Pour les juristes et les journalistes, le procès n'était qu'un procès de plus. Mais l'accusée éveilla l'intérêt de tous les hommes. Elle ne cessa de pleurer. Elle pleura pendant l'exposé du juge et pendant la délibération des jurés. Elle pleura pendant que ses amis l'emmenaient au tribunal devant lequel une foule d'adolescents l'avait bruyamment acclamé. Le verdict des jurés défiait toute logique. Jamais système de jurés n'a paru plus inutile dans une affaire de meurtre. On avait l'impression qu'il refusait de prendre la responsabilité d'une pendaison et préférait acquitter l'accusé. Pendant les semaines qui précédèrent le jugement, on fit à Myra Thomas une énorme publicité. Au moment du procès, cette publicité augmenta encore et atteignit le battage habituellement réservé à la Melbourne Cup, course de chevaux très populaire pendant laquelle tout s'arrête à Melbourne. Mais on ne publia pas un seul mot de compassion pour le mari assassiné. L'héroïne et sa mère décidèrent de quitter Adélaïde et d'aller s'installer à Perth, en Australie occidentale. Elle voyageait sous un nom d'emprunt et avec elle, dans l'express de 4h20 en provenance de Port Pirie, il y avait deux autres femmes. Les lits avaient été faits lorsque le train avait quitté Reed. Une fois Fisher dépassé, tout le monde était allé se coucher et avait assez bien dormi. Le lendemain matin, seule l'une des femmes avait déclaré qu'elle avait senti que le train s'était arrêté plusieurs fois. Le chef de train avait apporté une tasse de thé alors que le train se trouvait entre Deakin et Chifley. Et c'est à ce moment-là que les trois femmes s'étaient aperçues que la quatrième n'était pas avec elles. Le train avait été fouillé sans résultat. Toutes les gares situées entre Chifley et Reed avaient été contactées, mais la disparue n'avait pas raté le départ après être descendue. Le train avait dû reprendre sa route et la gendarmerie avait entrepris des recherches le long de la ligne, mais sans résultat. Finalement, un Easter épuisé et ses hommes, tout aussi épuisés, avaient abandonné après avoir battu la région sur 15 kilomètres de part et d'autre de la voie ferrée. Elaine Easter n'avait pas eu la tâche facile. Il lui avait fallu faire la cuisine et la conversation à des inspecteurs et à des sergents d'Adélaïde et de Perth, car il n'y avait pas d'hôtel à Chifley. On ne pouvait tout de même pas demander à ces pauvres petits de manger et de dormir dans un hangar. Enfin, la paix et l'ordre étaient revenus, et elle et son mari avaient pu reprendre possession de leur maison. Le soir, ils pouvaient à nouveau écouter le doux chant du silence dans la plaine, accompagné de temps à autre par la musique d'orgue d'un train qui approchait. Il y avait des livres à lire, de la couture à faire, des recettes à essayer, la gamelle à préparer quand son mari était de patrouille. Et maintenant, voilà à quoi on en était arrivé. Un policier de plus allait descendre de cet éternel train. Le diesel rugit et elle entendit le train reprendre son long, long chemin vers Kalgoorlie à l'ouest. Sa mélodie allait s'effacer progressivement et se fondre dans la berceuse que murmurait la plaine. L'arôme de café emplit la cuisine. La vieille pendule américaine qui tic-taquait sur la tablette accrochée au-dessus de la cuisinière avait égrené le temps pour 3 générations successives. Elaine Easter plaça les côtelettes sur un plat qu'elle déposa dans le four. Elle était en train de vérifier si elle n'avait rien oublié sur la table du petit déjeuner quand elle entendit des pas sur la véranda, puis dans le couloir. Le train faisait entendre son « au revoir » nostalgique et la pendule sonnait la demi quand ils entrèrent dans la cuisine. L'étranger déçut tout d'abord Elaine Easter. Elle était habituée à voir des hommes très robustes entrer dans sa cuisine, des hommes au visage carré et aux petits yeux perçants. Elle disait d'ailleurs toujours qu'il faisait exprès de plisser les yeux. L'homme qui venait d'entrer était mince, svelte, il avait un teint foncé et les yeux bleus les plus étonnants qu'elle ait jamais vus. Il la fixait en semblant lui demander pardon de cette intrusion. Elle ressentit un véritable choc en se rendant compte dans un recoin de son cerveau que l'homme n'était pas entièrement blanc. Mais le choc céda aussitôt devant le charme du sourire qu'il lui adressa en attendant de lui être présenté. Son mari reposa la grande valise et Elaine essaya de ne pas écarquiller les yeux en constatant qu'il exultait. Il lui dit Devine qui c'est, Elaine. L'inspecteur Napoléon Bonaparte. Il dit que nous devons l'appeler Bonnie, sinon il demandera à ce que je sois rétrogradé. Voici ma femme, Bonnie. L'inspecteur Bonaparte, le dieu de son mari, le plus grand enquêteur que l'Australie ait jamais compté, d'après son mari. L'homme qui n'avait encore jamais échoué, toujours d'après son mari. Maintenant, il s'inclinait devant elle, et une partie de son esprit se demandait pourquoi l'autre partie se sentait femme à ce point, et non pas simplement Elaine Easter. Elle fut captivée par les yeux bleus et se surprit à écouter la voix de l'inspecteur avec plaisir. « Tous mes amis m'appellent Bonnie, Madame Easter. Même mon patron, ma femme et mes fils m'appellent Bonnie. Je suis sûr que je ne me ferai que des amis à Chifley. »